Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et tu t'apprêtes à écouter en podcast un épisode du talk show de Bouscapé, Dis les termes. À chaque émission, un panel de professionnels va débattre sans langue de bois sur le rap. Allez, bonne écoute. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Dis les termes. Alors pour cet épisode, on a Big Flo et Oli. Vous allez bien les gars?
Ça va très bien, bonjour à tous.
Très content de vous recevoir les gars. Alors pour parler du sujet du jour, on vous reçoit parce que c'est un sujet qui vous touche directement. C'est les rappeurs entrepreneurs. Alors moi j'ai observé quelque chose dans le rap français et globalement dans les médias, c'est que les rappeurs ne sont pas considérés comme des entrepreneurs légitimes. Et j'aimerais en discuter avec vous parce qu'il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. Donc j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Déjà, j'aimerais bien qu'on définisse ce que c'est des rappeurs entrepreneurs parce qu'en vrai, la définition est hyper large. Dans les rappeurs français, qui vous considéreriez comme des rappeurs entrepreneurs?
Tout rappeur qui a un business.
Oui.
À part.
Oui, oui.
Très bien.
Oui. En rapport avec la musique?
Pas forcément.
Ou pas. Est-ce que si demain, t'es un rappeur qui devient producteur, est-ce que pour vous, c'est
pour moi, un rappeur, à partir du moment où, par exemple, c'est son propre éditeur, ou au moment où il monte une boîte de management, okay, etc., je le considère comme entrepreneur. Après, il y a plusieurs niveaux. T'as des mecs qui rachètent des boîtes, de l'immobilier, etc. Et t'as des mecs qui, on va dire, consolidifient leur structure de musique, on va dire.
Oui, voilà. Ils ont
moi, je considère que c'est un entrepreneur à partir du moment où il embauche des gens, où il commence à être son propre producteur, peut-être, commence à réfléchir autour de la musique.
Il y a de l'argent qui rentre, qui ne soit pas directement lié à sa musique.
Voilà, je dirais. Aussi ça. C'est aussi pour ça que j'ai voulu un peu vous poser cette question-là, parce que finalement, il y a ce dont tu parles, c'est-à-dire des rappeurs.
Du coup, c'est deux réponses.
Ouais, c'est ça.
C'est
ce que j'allais dire.
Mais du coup,
on n'est pas d'accord.
Ah bon?
Ouais. Donc vous n'avez pas le même postulat.
Les deux sont valides.
Oui, mais du coup,
c'est quoi la définition?
C'est ce que je voulais dire.
Qu'est-ce qu'on ferait comme conclusion?
On peut peut-être définir un peu plus.
C'est ce que j'allais faire, justement. Je pense que... Non, mais t'as raison. Mais en réalité, c'est ça. Moi, je mettrais plus les rappeurs qui sont soit en indépendant. Donc déjà, quand t'es en indépendant, même si t'es en partenariat avec Maison Disque, t'as le gros du travail à réaliser. Donc finalement, tu peux être mis dans cette case-là. Et tu as aussi ces rappeurs-là qui vont avoir des business annexes à la musique, marque de vêtements, boissons, etc., qui sont pour le coup vraiment des entrepreneurs parce qu'ils vont aller dans d'autres terrains hors musique. Est-ce qu'on est d'accord sur cette définition-là?
Ouais, c'est ça.
Oui, parce que de toute façon, la musique peut être un business. C'est même un business. Donc à partir du moment où le rappeur, il est propriétaire de sa prod ou de ses éditions ou quoi, pour moi, il est déjà un peu dans la case entrepreneur, quoi qu'il arrive.
Moi, je suis d'accord.
Moi, je le lis directement à un truc qui a rien à voir avec la musique, je sais pas pourquoi.
Toi, tu te dis genre la musique, c'est trop facile.
Bah, si c'est la musique, oui, dans tous les cas, c'est son boulot, donc oui, il est...
Bah, pas forcément.
Est-ce qu'on utilise le mot entrepreneur?
Bah oui, parce que en vrai, il y a des artistes qui sont juste des artistes. Il y a même des artistes qui sont même en indépendant, mais finalement, ils sont pas vraiment de grands entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils ont leur société, ils ont un cabis, ils s'occupent pas de ce qui se passe, ils sont pas dans ça.
Et dans la rue, c'est de plus en plus rare, j'ai l'impression.
Mais voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup qui se structurent, qui s'entourent et qui ont vraiment une valeur ajoutée dans leur propre boîte, tu vois, qui ramènent vraiment quelque chose. Donc on peut les qualifier d'entrepreneurs, moi, je pense. Tu vois?
Voilà. La distinction que j'aurais fait, parce qu'effectivement, la vraie réponse, à partir du moment où tu as une boîte, t'es entrepreneur, tu vois. Mm-hmm. Moi, ce que j'aurais un peu distingué, c'est je pense que je dirais que le mec qui se produit lui-même, vraiment, je dirais, on va dire, c'est limite un autre entrepreneur. Mm-hmm. Et je pense qu'à partir du moment où tu commences à produire d'autres artistes, où tu as une logique qui va au-delà de ta propre carrière, ça peut permettre de faire un tri. Parce que finalement, les artistes qui se produisent eux-mêmes, il y en a plein. Les artistes qui se produisent, qui font autre chose que du business de la musique, il y en a peu. Et je pense que l'entre-deux, c'est les mecs qui sont en mode. Qui se produisent eux-mêmes, qui produisent. Pas forcément.
Non, mais au-delà de notre propre carrière, ça définit bien l'étape 2. Tu vois.
En fait, quand tu produis ta propre musique, peut-être que ta volonté, c'est juste de faire ta musique et de gagner plus d'argent avec.
Comme Jul, peut-être.
Comme Jul. Mais quand tu dis, je vais produire quelqu'un d'autre, t'as une volonté vraiment entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'au-delà de mon intérêt de gagner de l'argent avec ma carrière, je vais utiliser du temps, de l'énergie pour développer la carrière de quelqu'un d'autre, pour le plaisir ou dans le but de faire encore plus d'argent, tu vois.
C'est juste.
Moi, je te dirais ça, Flo, mais le seul bémol que j'ajouterais, c'est qu'il y a certains artistes qui sont indépendants, qui se produisent eux-mêmes, mais ils se dissocient de leur personne. C'est-à-dire qu'entreprendre même sur ton projet, sur ta propre personne, même tu as un produit, justement, Oli, tu parlais de Jul, vu comment c'est devenu une économie, même s'il produit aussi, vu comment c'est devenu une économie, les sommes qu'il fait rentrer, l'image qu'il a, ce qu'il a développé, etc., tu es obligé de le considérer comme un entrepreneur. Mais après, c'est vrai que.
Oui, c'est vrai, parce que
sinon tu mets trop de gens dedans.
Entrepreneur,
c'est vrai. Sinon tu mets un peu trop de gens.
Mais justement, justement, je pense que ce que vous dites est très intéressant parce que finalement, tu as un Jul qui va faire sa propre musique et qui est indépendant, mais qui du coup a innové en quelque sorte dans le paysage français en battant des records, en vendant énormément. Donc je pense qu'on peut en parler. Et de l'autre côté, c'est plus là où on voulait aller, effectivement, de parler de ces artistes-là qui veulent pas juste vivre de leur musique, qui veulent produire d'autres artistes et aller sur d'autres terrains. Mais au moins, je pense qu'on est d'accord. On va parler de ces artistes-là.
Après, pour le coup, Jul, il a aussi sa marque de vêtements.
Ouais, le textile
il a beaucoup développé en plus. Ouais.
Mais c'est précis, c'est lié à la musique parce que c'est la marque de, c'est le nom de son label.
Voilà.
Non, mais c'est quand même une marque de fringues qui cartonne, ouais, qui carbure à fond avec des collabs et tout.
Ouais, je pense que ça va un peu plus loin que du merch. Je suis d'accord que des fois où l'artiste quand il fait juste du merch, pour moi c'est juste une déclinaison de ce qu'il fait.
C'est normal, on va dire.
C'est ça. Que lui quand même, le fait qu'il aille jusqu'à faire des collabs et qu'il pousse le truc, je pense que c'est une économie à part entière. Donc c'est un entre deux qui fait que pour moi on peut quand même le considérer. Surtout qu'ils produisent
artistes. Catégorie 2,
Bah, je pense que là, on a plus ou moins défini
les gens ensemble. Ouais,
non, mais c'est important.
Attends, zéro. On voit 40
grammes. Moi, je regarde les émissions des fois, vous allez trop loin, les mecs.
Ah ouais?
Vous êtes trop chaud.
C'est important de.
On va aller loin avec toi aujourd'hui.
Si tu dis à un rappeur de catégorie 1 qu'il n'est pas entrepreneur, il va se dire, mais frère, moi, je paye des factures, je paye des gens, même si c'est pour ma propre musique.
Oui, c'est ça.
On se comprend dans le. Moi, en tout cas, je me comprends dans le.
Moi aussi, je comprends ce que tu veux dire, bien
c'est
sûr.
C'est au cas par cas.
Oui, non, mais t'as raison.
Mon par nom, je pense.
Ils sont tous entrepreneurs, mais
on va tous les
faire. Tu parles de qui?
Maintenant qu'on a défini tout ça, franchement, qu'on parle de Jul ou qu'on parle d'un rappeur qui produit, et là, j'ai pas de nom tout de suite qui me vient en tête, mais aujourd'hui, quand on regarde dans les médias français mainstream, même s'il y a des efforts aujourd'hui, en général, quand on parle des rappeurs français, alors il y a le côté sulfureux, il y a aussi les records qui sont battus, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de l'aspect entrepreneurial de ces rappeurs-là. C'est-à-dire, vas-y, je te laisse.
J'ai remarqué un truc. Nous, tu sais, on est dans plusieurs cercles différents, musicaux et tout. Et souvent, les artistes plus variété ou plus pop, ils sont traumatisés.
Hallucinés, ouais.
Hallucinés.
Mais vraiment.
Par le côté business. Alors que nous, dans le rap, enfin, les fans de rap, on a l'habitude, un rappeur qui sort un truc. Je trouve que c'est dans l'ADN hip-hop d'avoir son business.
Ouais, de se débrouiller,
un
peu,
hustle, si je veux dire.
Le hustle, c'est exactement ce que.
Alors que dans la variété ou dans la pop, ils y sont pas du tout.
Nous, des fois,
et à chaque fois, ils nous regardent, ils font ah, mais vous avez une marque de vêtements? Mais ah ouais? Ah, mais vous faites ça,
les trucs?
Alors que nous, dans le rap,
c'est la base.
Oui, mais c'est presque
si t'as pas ta marque de vêtements. Mais par contre,
pas vraiment.
Moi, il y a un truc où je trouve que je dis honte parce que ça créera peut-être débat, mais je me considère de la famille rap français.
Non, mais ça va pas. Mais
Non, mais il y a ce débat-là, souvent rap ou pas rap, mais ça serait un autre sujet intéressant peut-être un jour. Je pense qu'il faut pas se victimiser, parce que je vois pas non plus dans les médias des artistes, il y a des mecs, on est même pas au courant, des chanteurs guitare-voix, par exemple, qui ont des business d'ouf, ils ont ouvert 14 restos partout.
Des hôtels.
Et ils sont pas non plus... dit comme artiste, je crois que c'est lié à l'art où on veut garder un peu le mystère, où les journalistes veulent vraiment séparer mec d'entreprise et artiste.
Ouais.
Mais c'est pas que propre au rap. Là, peut-être, je suis trop positif. J'ai pas d'exemple de mec de la variété.
Oui, non, mais c'est parce qu'un peu, il faut pas pourquoi on irait là-dessus si c'est complètement à part de sa musique.
Voilà,
moi, au-delà de ça, moi, je rajouterais un peu comme Dioli. Moi, j'ai un petit problème, des fois, avec cette position victimaire qu'on peut avoir parfois, de toujours dire il parle pas de nous, il parle pas de ci, il parle pas de ça. Quand Mokoubi, il avait ouvert son tacos à Vitry, il y avait le Parisien qui avait ouvert.
Mokoubi, il nous a tous traumatisés.
Voilà, c'est ça.
Mokoubi, c'est le premier.
Il avait diversifié ses activités. Il y avait Cynic aussi avec son salon de tatouage. Ouais. Seth Gecko, je crois, avec son Barlow Burger. En tout cas, Le Parisien en a parlé, etc. Mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on attend finalement des médias? On parle de quels médias?
Oui, ils vont pas non plus.
Tu veux que les Échos et Challenge ils couvrent le quoi? Enfin,
en fait, je trouve que. En fait, les médias en parlent beaucoup. Un mec comme Seth Gecko, il a beaucoup plus de relais que sa carrière artistique par sa carrière professionnelle. Booba, quand il lance au KLM, ça fait beaucoup de bruit. Enfin, tu vois, genre, la plupart des artistes, quand ils lancent du business, ça fait beaucoup de bruit. Alors, effectivement, c'est pas d'enforce, mais parce que ça reste des petits business entre guillemets, tu vois.
Ouais, le c'est jour ça, où ils on a un business qui des gros mecs de la pharmacie,
c'est grave relayé en vrai. Dans tout le même quand tu vas voir quand tu fais une interview, j'ai en mémoire Booba, mais quand il va faire une interview, les gens à chaque fois le disent, ouais, rappeur, entrepreneur.
Et même c'est business.
J'allais justement.
Il y a une hypocrisie du milieu rap où je me mets dedans, où on dit.
Tu mets dans les rappeurs.
Ouais, mais ça c'est
dégueulasse. Non
mais bref, il y a une hypocrisie où à chaque fois on dit ouais ils parlent pas de nous, ils nous considèrent pas, et quand ils le font en vrai on s'en bat les couilles. En vrai,
il y a une
ils sont là, ils ont parlé de nous là, ouais, qu'ils aillent se faire foutre, ils nous ont jamais soutenus.
Non, après il y a toujours aussi un sentiment de défiance, je pense, entre le milieu du rap et les médias généralistes. Et en fait ça flatte l'ego d'être diffusé, je pense, pour les artistes, vous allez me confirmer ou pas, dans des médias plus généralistes où faire le TF1 un venteur. Mais il y a toujours un sentiment de défiance, une méfiance en vrai de vrai, parce que tu te dis ah peut-être que finalement demain je suis dans une sauce, ils vont me terminer, mais tu vois ce que je veux dire.
Petite précision, je te
laisse reprendre, mais
je crois que c'est aussi notre modèle français qui fait que on va pas gratter derrière le,
tu sais,
il y a un truc un peu de timidité et de pudeur avec l'argent. Par exemple, il y a des mecs comme je pensais pas dire ça sur Bouscapé, mais je pense à un mec comme Nagui qui a des business, de fou et qui est peut-être un des mecs qui pèse le plus. Il a acheté des trucs que peu de gens savent. Nous, on sait un peu parce qu'on regarde les trucs. Et ça, je crois pas que ça intéresse beaucoup les gens. Alors qu'au State, on a ce truc-là, des Nas, des Jay-Z, ils produisent cette série.
Mais ça, tu l'as sur YouTube, en fait.
Mais non seulement ça intéresse pas beaucoup les gens, mais en plus, il y en a beaucoup qui le verraient peut-être même en plus d'un mauvais œil.
Ouais, d'un mauvais œil.
J'ai envie de te dire, est-ce que tous les rappeurs, venons d'oublier la musique, qui ont diversifié leurs activités au-delà du resto, et je dénigre pas du tout, du resto ou de l'activité qui barbeur, est un peu périphérique, barbeur, etc. Est-ce que tous les rappeurs, ils ont envie que tu saches qu'ils ont des biens, qu'ils ont des SI, que ci, que ça, qu'ils ont investi sur ça? Bon, on va rentrer dans les détails du pourquoi du comment, mais ce que je veux leur parler, c'est que peut-être tout le monde n'a pas envie d'exposer son patrimoine.
Une partie de ça,
à un moment donné, j'ai envie de te dire, ah, il pèse tant, lui, ok, bah on va y aller, vite fait, rapide, on va faire un tour.
Non, toi, mais c'est pas dans la culture française.
Donc, en vérité,
c'est là où j'allais vous emmener.
Bien sûr,
c'est peut-être une question de mentalité, mais justement, pour rebondir sur ce que tu disais plus tôt, sur justement les médias mainstream, etc., c'est vrai effectivement qu'on en parle de plus en plus, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai que par exemple, lorsque tu as des rappeurs qui vont aller dans certains plateaux, moi j'ai par exemple l'exemple qui me vient en tête, c'est Rof avec le Danube. Alors oui, certes, l'exemple.
Rof avec quoi ? Avec le téléphone.
Ah oui. Quand il tourne sur les réseaux TPMP, etc., il y a un peu un côté de il s'est ridiculisé, il y a la lumière, etc. Mais finalement, il a tenté quelque chose. Et à l'instant où il y a un rappeur qui va tenter quelque chose comme ça.
C'est France, ça, français.
Voilà. Il y a un truc où il a été vite ridiculisé. Or, moi, finalement.
Pas par les médias, hein. Parce qu'en fait, les médias ont joué le jeu. Ils m'ont fait
le TPMP. Les TPMP dans l'émission.
Ils sont pas vraiment foutus.
Ça allait à peu près. Ça allait, en vrai.
C'est
la presse qui était mal faite. C'est plus après sur les réseaux. Je suis assez d'accord. Je vois ce que tu veux dire.
C'est les réseaux qui m'ont attaqué.
Non, non. L'avocat, mais c'est plus sur les réseaux après, en mode, mais qu'est-ce qu'il a à faire l'entrepreneur, le truc costard avec son téléphone. C'est plus la mentalité. Mais regarde, aux États-Unis, chaque grosse marque, style les Uber, les trucs, tous les gens de ce pays-là connaissent les visages.
Oui,
nous on ne connaît pas le mec qui a créé, j'ai pas d'exemple, mais le mec qui a créé une grosse boîte de pharmacie qui est dans toutes les villes. On n'a pas, il fait pas de TEDx, il fait pas de JT. Alors qu'au State,
non mais c'est toujours la même mentalité. C'est toujours la même problématique en France où l'idée même de vouloir générer de l'argent, c'est un truc qui est vu de manière négative,
bien sûr.
Ce qui est une dinguerie et une hypocrisie. Ben on a beau le répéter, mais même nous on le fait, on y participe au final, parce que même moi qui dis ça, des fois je fais il fait ça pour le fric, l'enfoiré. Donc c'est un truc français où tout le monde veut gagner son pain et faire du fric, et dès que tu le dis, les gens ils font non, c'est honteux et tout.
Ouais, mais ça nous préserve aussi d'une mentalité extrême.
Au State, ils vont trop loin des fois aussi, c'est
moi
pas
je
un exemple
pas aux États-Unis où c'est vraiment ils ne parlent que de ça. Il y a même
est-ce qu'il y a pas un entre deux?
Non, mais je pense que ça change, hein.
Parce que moi justement, ce que je me dis, c'est que
la nouvelle génération,
oui, je pense que ça change, parce que je pense que les plus jeunes aujourd'hui, ils ont cette mentale là très très vite.
Avec les youtubeurs, c'est vrai,
ça rentre de l'oseille, ok, qu'est-ce que j'en fais, bim, je vais mettre un peu là. Alors que les anciennes générations, très peu, tu vois, j'étais là juste, tu faisais le mignon et c'est tout. Mais
après, moi aussi, l'ancienne génération, si on parle d'artistes, pour le coup, ils étaient aussi beaucoup dans des contrats, vous me direz si je me trompe, dans des contrats classiques d'artistes avec des taux qui n'étaient pas
ouf
aussi, donc ils se sont fait plier sur beaucoup de choses. Et à mon avis, il y avait aussi cette dépendance vis-à-vis de la maison de disques, et se dire aussi que de toute façon ça s'arrêtera jamais. Il y avait peut-être aussi cette volonté d'investir dans d'autres business. Il y avait peut-être aussi cette volonté, peut-être des fois aussi, de te sécuriser toi et ta famille.
Il y avait zéro modèle aussi.
Il y avait zéro modèle parce que au-delà du quand on veut, on peut, c'est aussi quand on peut, on veut. C'est-à-dire quand on voit des exemples qu'ils font, on se dit nous aussi, on peut le faire.
C'est un bon exemple ce que tu dis, parce qu'avec Oli, on a croisé beaucoup de mecs de la génération d'avant qui étaient au top du top et qui n'ont pas bien préparé leur sortie, entre guillemets, et qui nous ont dit, les gars, faites gaffe, moi, je suis dans la merde aujourd'hui, qui nous l'ont dit sincèrement.
Les impôts. C'est ça, je te dis, les anciens, ils avaient moins cette mentale-là, tu vois.
Et il y a un côté aussi fouteux où, en vrai, le rap, t'es censé mal vivre dans le rap, c'est de moins en moins vrai, mais j'ai l'impression que les rappeurs, on prépare nos carrières un peu comme les fouteux, où on sait qu'à un moment donné,
vous avez des
saisons.
Il vaut
mieux avoir du business qui n'est pas codépendante de ta musique.
Et je te demande, Flo, et je te demande, Oli aussi, est-ce que vous considérez, en tant que rappeur entrepreneur, comme des produits? C'est-à-dire qu'à un jour...
Attends, pause, c'est Flo excellent, Oli, parce que c'est exactement la question.
Désolé, je vais
c'est parfait,
excuse-moi.
C'est parfait,
c'est bon, c'est pas sûr.
Est-ce que pour vous, Big Flo Oli, la marque Big Flo Oli, il y a une date de péremption, et à un moment donné, vous êtes éteint, ou soit vous allez vous dire quoi, on va faire du jeunisme, ou bien vous allez plus être en phase avec ce que vous faites?
Regarde mon suite, c'est déjà ce que je fais. ce que je fais.
Non, mais c'est une peur. C'est une peur qu'on a. Alors évidemment, on n'a pas envie. On a envie que ça dure éternellement, tu vois. Après, on a des exemples de plus en plus. Tu vois un Booba, tu vois un Aurel San. Frérot qui commence quand même à être là depuis longtemps. Et puis après, il y a différents degrés. IAM, par exemple, ils font des tournées full, ils font des festivals, leurs albums, ils marchent plus du tout. Mais pourtant, le business IAM, il continue full, tu vois. Donc ouais.
Moi, je vois pas comme date de péremption, mais je vois en tout cas, j'anticipe. C'est comme si j'étais dans une montagne russe et je sais qu'il va y avoir des descentes, ça va remonter, ça va redescendre.
Ça va se tasser peut-être un petit peu.
Mais je
ne
vois pas descendre du manège pour te répondre.
Tout artiste a son prime. Il y a toujours un moment donné où tu as le prime et tu ne réatteindras jamais ce niveau-là. Quoi.
Bah d'ailleurs, c'est marrant parce que finalement, les exemples que tu cites de longévité, c'est que des mecs qui ont réussi à tenir grâce au business de la musique et pas par rapport à notre business. Tu n'as pas dit, par exemple, ce rappeur-là, il a arrêté, mais derrière, il a fait autre chose. Par exemple, Barak Adama, tu vois, qui derrière devient producteur et réussit dans ce truc-là. T'as pris que des exemples de mecs qui continuent à faire de la musique et gagner leur vie grâce à ça.
Parce que là, on parlait de la marque Big Flo Oli sur le long terme. Après, il y a des rappeurs qui. C'est qui a plein de. Je sais pas si on a le droit de le dire, mais plein de food corner à fond et qui. Il est tranquille, il peut arrêter.
Il y en avait pas mal.
Il y en a plein qui ont investi dans food corner, frérot. Ils sont
très tôt, il a investi.
Barak Adama, il fait ça aussi.
Très tôt, il a investi. Mais il me semble que quand tu parles à IAM, etc., il me semble qu'ils ont investi dans d'autres trucs aussi. Donc, oui, la marque IAM marche encore, mais indépendamment de ça, je pense qu'ils ont aussi diversifié
dès le début, ils ont produit les psychiatres.
Ah, voilà, il y a eu d'autres choses.
Et justement, vous, les gars, en termes de business, nous, on observe un peu, on est dans le milieu. Qu'est-ce que vous avez actuellement de fort, alors?
Je
vous
pose la question. Pourquoi
tu regardes comme ça ton frère?
Parce que
c'est lui qui va dire.
En fait, je vais me tourner vers Big Flo, parce que c'est lui qui arrive.
Je pense qu'il va se libérer. Moi, je suis trop carré.
Carré dealer.
Flo, déclare cannabis.
Non.
Tant qu'il y a combien de boîtes, là?
Nous, c'est un truc, déjà, il faut savoir, ça dépend des artistes. Il y a des artistes vraiment qui ça intéresse pas du tout. Mais avec Oli, on a été matrixé, je pense, par le rap et on a été toujours fasciné par l'idée d'avoir un business. Au-delà de faire du fric, même si c'est un truc que j'aime beaucoup dans ma vie, je vais pas vous mentir. Au-delà de ça, c'est aussi un truc de kiff, de se dire viens, on lance ça, d'avoir un truc à nous.
Développer un projet.
Moi, je me souviens la première fois que j'étais confronté à ça, c'est je crois le clip Booba, Strass et Paillettes, où on le voit imprimer des t-shirts en sérigraphie.
Ouais, les
uncut. Ça m'avait marqué. Moi, j'étais fan de celui C'est Phil aussi, qui avait Royal Wear, qui avait les trois étages Champs-Élysées et tout ça. Donc, ça a commencé le premier business qu'on a voulu lancer avec Oli, c'est notre marque de fringues. Et on voulait pas avoir juste, comme vous disiez, un merch classique. On voulait une vraie marque. Aujourd'hui, on a la marque Visionnaire depuis 2017. Franchement, ça marche très très bien. On a ouvert une boutique et un café à Toulouse. On a ça.
On est partenaire du club de foot de notre ville.
Ouais,
aussi.
On est même partenaire du club de foot de notre ville. On a lancé une boisson il y a pas longtemps.
Ok.
Une boisson matée, c'est une boisson argentine, etc. On a lancé ça. On a une boîte. Ça dépend. Tu vois, est-ce que ça compte ou pas, boîte de spectacle. Où on coproduit pas mal de groupes, notamment on est coproducteur des Berry Wham, etc. sur tout ce qui est tourné. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a notre label, Bonne Étoile, qu'on a lancé chez Universal, où on produit trois artistes pour l'instant.
Tu veux donner les noms des artistes peut-être?
Ouais, bien sûr, L.O. Carré.
L.O. Carré, qui c'est le début, hein, mais il remplit la maroquinerie, il commence à faire ses salles de 400. Place un peu partout.
Mais en vrai, ça, c'est pas le.
Tioma, Olin.
Ça, on le fait pas pour le coup, on le fait pas dans une démarche d'argent parce qu'on sait que produire des artistes, c'est cher. Et en vrai, c'est difficile de vraiment les faire pop. Il y a peu d'artistes qui ont réussi vraiment à produire des artistes sur la longévité, j'ai l'impression. Quoi. Ça, c'est le plus dur.
On a investi dans une marque de Dark Kitchen qui fait un peu de bouffe à Toulouse.
On investit dans pas mal de trucs.
Il y a 5 marques comme ça. On est actionnaire de ce truc-là qui s'appelle Foodie. C'est un truc où on vient d'ouvrir à Bordeaux, Montpellier. On est la plus grosse marque de Dark Kitchen d'Occitanie.
Putain, c'est lourd.
Ouais.
Tu vois, je crois que c'est la première fois que vous le dites, là.
Ouais, c'est la première fois, ouais.
Putain, on a une exclu chez Dylan.
Je crois que tu voulais cacher les trucs.
Mais les gars,
non, mais ça, tu voulais pas le dire, quoi.
Non, mais c'est mortel parce que vous regardez le truc.
On continue à l'exclu.
Non, mais tu vois, c'est ça, notre minimalisme palpable.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
On trouve aussi le
climat.
Tu en parles, non, mais le climat.
Je vois déjà les gens qui font ah les bâtards.
Le climat, sociétal en fait. Le climat sociétal, j'ai envie de te dire.
Mais j'ai une question. Mais moi, je pense que ça va les inspirer, les gens.
Ouais, ouais aussi.
Continue là. Et du coup, donc tu disais, vous avez aussi lancé un festival.
Oui, putain, ouais. Bon, comment j'ai pu oublier ça en plus.
Récemment ouais, en plus.
On a lancé un festival il y a 2 semaines là où on a fait 25 000 personnes par soir. Ça, pareil, c'est un truc qu'on voit sur le long terme. Tu vois, justement, tu parles de Big Feu Oli. Mon kiff, ça serait que même si Big Feu Oli, c'est flingué, plus personne n'écoute, etc., je peux quand même... J'ai mon festival qui tourne depuis 12 ans. J'y vais, je vois que tout cartonne.
Là, ça a été vraiment une réussite. Hein. Pour nous, ça a été... Pour une première édition, là, je me la pète un peu, mais pour une première édition, c'est vraiment exceptionnel. De ramener 50 000 personnes comme ça, c'était... Donc là, on a
de grosses ambitions de rajouter un jour sur le long terme.
Et du coup, je ne sais pas si vous avez fait la tour, parce que vous faites dans les éditions peut-être, non ?
De quoi ?
Vous faites l'édition aussi peut-être, non ?
Ouais, co-éditeur. Ouais.
Et
ça, pour nous, c'est à peu près normal, co-éditeur. Ouais. Là, on est en contrat approximativement de licence, sans rentrer dans les détails, ouais. Mais donc on est en partie coproducteur et de la tournée, quasiment producteur.
Ouais. OK. Et quand tu vois sur ces business, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les choses qui vous concernent, vous. Vous avez quand vous produisez d'autres artistes, vous produisez, quand vous faites quelque chose qui n'a rien à voir, comme Dark Kitchen, comme la boisson,
ouais.
Et vous avez aussi la marque de vêtements. En fait, dans tout ça, vous pensez que dans combien de temps, si demain vous arrêtez la musique, ça pourrait continuer à tourner tout seul ? Parce que j'imagine Dark Kitchen, vous n'avez pas besoin d'être en image. Par contre, la
notre marque de vêtements, c'est sûr
peut-être
que...
un peu plus dur.
Le festival,
ouais. Est-ce que vous avez besoin d'être encore en activité pour que ça tourne encore à l'heure actuelle, tu vois ?
Notre marque de vêtements, je pense qu'elle est quand même liée à nous.
Ouais.
En tout cas, on essaye de le dissocier au maximum, mais c'est quand même difficile.
On fait des collabs, on essaie de.
Mais je pense que si Big Feu Oli, ça floppe de fou dans les années prochaines, mais la marque, elle meurt avec. Mmh. Par contre, le Dark Kitchen, pas besoin de Big Feu Oli. Le festival, il n'y a pas besoin de Big Feu Oli non plus, parce que
tu
as quand même d'autres
les
artistes,
gros noms,
etc.
Même, ouais.
Et moi,
le Dark Kitchen, dans tous les cas, on l'a jamais annoncé et c'est même pas,
c'est pas lié à votre.
C'est même pas dans l'idée.
On va faire des trucs avec, mais ça ouais. Sera pas codépendant à 100%. Et ça, c'est l'objectif de se rassurer comme les footeux, où tu te dis, si jamais la blessure, ben, nous, c'est le flop. Et la blessure égale un flop. Et tu te dis, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même ces trucs-là qui vont rapporter.
Mais moi, je vais te dire une phrase qui sera peut-être démago ou quoi, mais moi, ça fera. Peut-être du bruit, ce que je vais dire, mais
oula.
Je considère déjà, comparé à ce que je rêvais, avoir gagné de l'argent. Enfin, je veux dire, je.
T'es déjà en bonus pour toi.
Je suis pas
un
dépensier.
J'ai
pas le permis, je m'en fous des trucs de marque, ça me fait pas bander, ce genre de truc-là. Donc, je suis déjà dans un bonus, si tu veux.
En fait, toi, t'es plus le communiste, c'est lui le capitaine.
Ouais, c'est ça.
Ah, mais pourquoi
c'est
vrai, tu dis ça
c'est
par rapport à la montre. Par rapport à la montre.
Moi, frérot, c'est la faute à Booba, je le dis.
Et je voulais dire,
c'est la faute à Booba.
Parce que
j'ai regardé ses clips et c'est lui qui m'a matrixé. J'ai voulu faire du bis, j'ai voulu tout niquer. C'est lui, il m'a donné cette envie.
Et je voulais rajouter un truc, c'est aussi des aventures. Tu vois, par exemple, la marque de boisson, c'est une rencontre avec un gars. Qui a un truc où on s'est associé, maintenant on est trois dessus. Là, on vient d'ouvrir une boîte de transport, tu vois. Bon, pour l'instant, on commence avec un van, mais.
Ah c'est vrai qu'on a une boîte de transport.
Ouais, qui s'appelle La Clé Transport. En fait, on va racheter des vans Mercedes, des trucs pour pouvoir. En fait, juste parce que nous, on utilise ça et on s'est dit, mais.
Ah, il y a un besoin,
pourquoi on
ne
fait pas croquer. Un pote à nous, on avait un pote qui était chauffeur Uber et on vient de l'embaucher sur cette boîte-là. Donc, c'est au-delà du côté qui intéresserait peut-être
côté
plus
humain.
Flow. Il y a un côté. Où c'est ouf, notre marque de vêtements, j'ai embauché mon voisin d'enfance et ma cousine, tu vois, c'est des gens de notre famille, des gens, tu vois, qui avaient des métiers un peu plus ingrats,
mm-hmm.
et qu'on, tu sais, on apprend ensemble.
Il y a un vrai,
et en fait, ce qui est agréable, pour ajouter un truc, c'est que ce que j'ai remarqué dans mon fonctionnement dans le rap, c'est qu'en étant autodidacte, parce que nous, on n'a pas fait de formation pour être patron, parfois on pêche, tu sais, il y a des trucs qu'on ne sait pas, de RH, de trucs de comptabilité, de suivi relationnel humain, des fois on a la flemme, on est en tournée, on n'a pas le temps forcément d'appeler tout le monde. En fait, j'ai remarqué qu'en créant notre propre modèle autodidacte, en fait, on n'a pas eu à suivre des trucs trop carrés ou des modèles.
C'est pas dans un carcan,
en fait,
quoi.
Ce que je veux dire, c'est qu'en étant autodidacte, on a créé notre modèle à nous, qui s'adapte à notre vision des choses. Et ça, c'est en business, c'est ultra agréable. Quoi.
Ouais, après, je veux dire un truc un peu horrible, mais si ta carrière est vraiment, elle a bien marché, que normalement, t'as bien...
Le Colombien, il rigole derrière.
T'as bien négocié tes contrats. En vrai, là, on a assez d'argent pour même si on est en full flop et qu'il n'y a plus rien qui rentre, normalement, ça tient jusqu'à la fin de nos jours.
Si tu gères bien,
Si tu gères bien les
dépenses,
qui cartonnent
vraiment,
et parce que
vous
avez une carrière
musicale
qui a cartonné aussi,
tu vois.
Les dépenses,
c'est vrai qu'il y en a qui ont flambé, mais il y en a qui ont vraiment flambé.
Si tu rentres 50 millions, t'en sors 60, t'es tu bas. Ouais, c'est un truc aussi, vous savez,
c'est 60. Et c'est un truc, non mais c'est un truc de l'ancienne génération.
Attention.
Mais moi j'ai croisé des gars de l'ancienne génération qui nous ont dit, les petits frères, faites gaffe, nous on a tout claqué. Ils nous l'ont dit, on a tout claqué.
Mais c'est pour ça que tu vois que c'est une question de mentalité, de génération, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens à votre place. Je pense que ce serait dit, bon bah ça y est, tranquille, là je suis bien, fin de l'histoire. Ouais. Et puis on verra si je refais de l'oseille en sortant un prochain album. Mais entre eux, il n'y aurait pas grand-chose. Est-ce que c'est aussi une question pour vous de pouvoir tout le temps rester actif, avoir un truc nouveau, challenge, parce qu'une carrière ça fait un peu comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, bah frère, tu pars sur une boisson, tu pars sur cette histoire de van, est-ce que ça permet aussi de rester toujours focus et d'avoir actif. Un truc à faire là où il y en a d'autres qui seraient en train de jouer à la play toute la journée, frère.
Mais moi c'est
ça,
même pas
un peu de ça, c'est sûr, hein.
Moi c'est même pas un truc
sur le mental aussi,
genre le financier, je suis content parce que c'est cool, mais c'est même pas, moi c'est juste parce que je m'ennuie et que j'ai envie de
faire des
projets. Mais je pense que t'as vraiment la dame dans l'entrepreneur. Moi j'ai un petit appart à Toulouse, j'ai juste acheté un appart à Toulouse, tu me mets là, c'est bon, j'ai mon appart à moi, donc déjà j'ai pas de loyer, etc. Tu me mets un peu d'argent et tout, je suis bien. J'ai mon studio, on a acheté le studio, on est propriétaire de l'endroit où on a notre studio.
C'est bon, en fait.
Oli, c'est un mec hyper sam. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que ces trucs-là, il le fait pas. L'argent, ça n'a jamais été la motivation.
Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on parlait de l'image, que finalement, on dirait que t'es en train de te justifier alors qu'il n'y a pas besoin, tu vois, en vrai. Ouais. C'est que même si on a. Ouais. En gros, c'est qu'il y a quand même ce truc de dire. Je comprends, en gros, un entrepreneur, il le fait pour des raisons qui peuvent être hors business, hors argent. Effectivement, comme tu dis, le challenge, créer quelque chose de nouveau, faire en sorte que tes potes aient du taf. Mais ce qui est marrant dans le discours que t'as, c'est que ça montre quand même le côté où on a toujours peur de comment ça va être.
Je comprends que tu l'analyses comme ça. Mais moi, je voulais plus donner les clés à des gens qui sont pas forcément sur l'argent ou sur des comptes. Moi, par exemple, les trucs de comptabilité et tout, je sais que c'est Flo qui va gérer les réunions comme ça, je m'en fous total.
Non, Oli, il est 100% sincère. Ce que je veux dire, il a déjà refusé des trucs qui se refusent pas.
Non, mais c'est pas
il
ça que je veux dire.
Il a refusé des villes, j'en ai les larmes.
Non, mais c'est juste qu'il voit l'aspect. Moi, ce que je veux dire, c'est que dire aux gens derrière leur caméra que même ceux qui n'ont pas la fibre argent, etc., il faut le faire. En fait, ceux qui ont envie de vivre des vraies choses et tout.
Plus sous forme de projet,
l'entrepreneuriat n'est pas que pour les mecs en costard qui sont fans d'argent et qui ont les applis de banque et qui regardent tout. Enfin, je veux dire, c'est pas que pour les food freaks, ça que je voulais à peu près dire.
Et justement,
c'est le côté français qui me fait me justifier, en effet. Ouais.
Et par rapport aux différentes activités que vous avez, si on enlève la musique, comme tu as dit, Flo, si le textile demain, enfin, si la carrière musicale fait un flop, le textile ne suivra pas. Là, par rapport aux différentes activités que vous avez entreprises dans lesquelles vous êtes lancé, quelle activité génère le plus de revenus si vous un top 2, top 3, sans forcément rentrer dans les détails des revenus, mais pour comprendre
les
qu'est-ce qui marche
annexes,
le plus, indépendant de la musique, indépendamment de la musique.
Moi-même, j'aimerais même plus simple, est-ce que
c'est en
activité musicale, est-ce que tout ce qui est annexe, mais ça s'appelle la production d'artistes, le festival, je mettrai la marque de vêtements parce que c'est sorti du merch pour moi, est-ce qu'aujourd'hui ça génère plus que votre activité musicale, qui est quand même quelque chose d'assez florissant quand même.
Non, plus que la musique, pour l'instant non, c'est l'objectif.
Et indépendamment de la musique, qu'est-ce qui génère le plus
dans les deux demander à mon ref.
Qu'est-ce qui génère le plus
intéressant pour les gens qui ont envie de diversifier.
C'est assez récent, tu connais, quand tu investis dans une boîte ou quand tu lances, c'est ça que je veux dire aussi, ça a été une de mes grandes déceptions qui me donne envie de pleurer tous les soirs. C'est très dur de faire de l'argent, en vrai. C'est très dur. Mais moi, quand j'ai appris ça, j'ai eu envie de pleurer. Et je tiens à le dire aux jeunes qui regardent cette vidéo, c'est long, c'est chiant, tout est divisé par 4 tout le temps. Dès que t'as une somme, dans ta tête, il faut penser tu gagnes 4 fois moins par rapport aux impôts, aux trucs, aux frais. Donc c'est très dur. Donc là, la boisson, on vient de la lancer. Pour l'instant, on est en déficit parce qu'on a investi dedans. La marque de fringues, ça cartonne de ouf. Mais c'est comme tu disais, c'est lié à Big Flo Oli. Mais par contre, ça cartonne vraiment.
Donc, business après, la musique, on va dire que c'est le plus gros.
Ensuite, le festival.
Ouais, visionnaire, c'est le truc
festival,
le plus
les 2-3 premières années, on a prévu des moins qui te donnent des sueurs, frérot. des chiffres dingues. Par contre,
ouais, voilà,
au bout de 5-6 ans, c'est censé te rendre blindé, quoi. Ouais. C'est vraiment un.
Tu parles de quoi? De la marque de vêtements ou de la boisson?
Non, festival.
La boisson. Par exemple, on parle avec des grosses enseignes, etc. Donc ça va,
c'est
ça
long.
Pourra vite. Ouais. Si on travaille bien, peut-être dans un an, si on refait l'émission, ça pourra vite redevenir un truc indépendant.
À part dans la crypto, il y a aucun autre domaine où tu mets un billet, t'attends 2 mois et c'est doublé. Mais ça n'existe pas dans la vraie
vie. Juste un truc flou.
Toi, t'es l'immobilier aussi.
Justement.
Ah mais c'est du temps.
L'immobilier faire x2 en 2 mois.
C'est autre chose.
C'est très long.
Par rapport à ce que tu dis, Flo, si je comprends bien, pour pas nuancer le propos, mais préciser le propos. Quand il dit, pour faire de l'argent, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous générez des revenus, vous avez des chiffres d'affaires à 1, mais par rapport à ce que ça vous coûte, vous êtes en déficit. Tu comprends ce que je veux dire par là?
Sur le projet,
ça dépend des business.
C'est pour ça. Est-ce que ça génère un chiffre Est-ce que ça génère un chiffre, mais les charges sont trop hautes, comme le festival, par exemple. Genre, vous générez un chiffre, mais les charges sont trop hautes, donc vous êtes en déficit. Ou bien, il y a des activités qui, même en chiffre d'affaires, ça génère peu de chiffres parce que c'est le début et t'es vraiment que dans
mais
le...
Par exemple, la marque de Franck, ça a mis un moment à vraiment tourner et qu'on fasse du bon bénéf. Mmh. Mais là, vraiment, ça rapporte vraiment bien.
Ok.
Est-ce que tu peux donner un chiffre?
Non.
Ok, il y a une belle marge.
J'ai posé la question.
C'est une belle marche,
Et encore, on pourrait faire bien plus parce que nous, les fringues, on les fait faire au Portugal et on a décidé de mettre des prix qui sont pas trop...
Moi, je ralentis le business, en fait.
Oli me fait perdre énormément d'argent.
La décroissance.
Il faut dire la vérité.
La responsabilité.
Rester accessible à un maximum de gens.
On le fait au Portugal, c'est même pas de la pub pour la marque, mais nos vêtements sont sincèrement de qualité. Éthiquement, c'est nickel.
C'est un élément, c'est-à-dire... ça, l'éthique, dans votre démarche entrepreneuriale.
Ah ouais, moi, en tout cas, je...
Lui, il voulait partir au Bangladesh.
On va dire que moi aussi...
Il est un peu moins regardant, mais ça reste... Là, il fait le mec.
Ça dépend. Lui, Oli, il est vraiment... à fond, moi je le suis aussi, mais voilà, il y a une petite élasticité de mon côté.
J'ai un bon exemple qui va vous parler à tous, c'est les places de concert. Recule frère, je vois pas le chroniqueur à chaque fois. Les places de concert, moi je lutte. C'est-à-dire dans des réunions, c'est des
fights. C'est le monde à l'envers.
C'est des fights avec nos producteurs. Je dis les gars, je veux pas être plus cher que ça, tu vois. On est quasiment dans les moins chers à chaque fois. En tout cas sur les fosses et sur les premiers gradins, on va dire un peu abordables, etc. Et c'est une lutte. Et je sais que parfois, si j'augmente de 1,50 2 euros, vu qu'on
dans la
tournée,
on
vend 500 000 places, on va dire entre 400 et 500 000 places de tournée.
La tournée, on a dû augmenter de 3 euros. Cette année, on a augmenté entre 3 et 5 euros les places.
Ouais, c'était trop cher, ouais.
Et parce que tu connais inflation, galère et tout ça. On était obligés et on voulait faire un gros show. Et je sais que toi, t'étais pas bien, quoi.
Moi, j'ai ce rapport.
On a été obligés, on t'a dit au bon moment, on n'a pas le choix.
J'ai ce rapport trop, mais même trop. Hein. C'est,
moment,
j'ai
un truc à régler. Oli, il se sent redevable quand quelqu'un achète un produit. Il a envie de lui dire désolé, merci, j'espère que tu penses que c'est vraiment, quoi.
Mais tu penses que ça vient d'où, ça?
Déjà d'une carence émotionnelle énorme. Non, je rigole.
Non, mais petit moi, ça va être deep.
Non, mais ça vient de notre enfance, je pense.
Parce que t'as percé très jeune.
Ouais, j'ai percé jeune. En plus, je suis encore vraiment avec mes potes d'enfance qui eux ont des métiers où certains galèrent, il y en a qui sont au chômage, etc. Donc j'ai ce truc de culpabilité où même quand on va la boutique, elle tourne vraiment bien. Quand j'y vais, ou le café, quand j'y vais, je vois des gens lâcher un billet de 50, par exemple. Je me dis, putain, c'est... J'arrive, tiens, prends ça aussi. même mes propres vendeurs me disent, calme. Calme sur les cadeaux, parce que dans le chiffre, après, ça commence à se sentir.
Non, c'est même pas, je sais que des fois, Oli, ça peut être vu comme une posture ou quoi. Il est vraiment sincèrement comme ça.
Non, mais ça se voit qu'il est comme ça.
Mais je pense aussi que c'est dû au climat français.
Ouais,
si on avait été au States, tu aurais beaucoup moins honte, entre guillemets, parce que toi aussi, ça t'intéresse beaucoup le regard des gens par rapport sur Big Flo, Oli et tout. Si c'était acté le côté fric et tout, on y serait allé.
Après, il y a Jekyll aux US, hein, tu me fais penser.
Ouais,
c'est son idole.
Moi, je suis.
C'est son idole.
Ah bah voilà.
En fait, vous êtes complémentaires dans la démarche.
Oui, on est très complémentaires surtout.
Ça arrête pas.
Et heureusement qu'il est là pour me calmer sur certains délires, parce que moi, en vrai, il y a des fois des deals, parce qu'on a oublié de parler d'un business parallèle qui est un des plus gros business et qui nous rapporte autant que la musique, c'est les marques. C'est les marques ou c'est les trucs
annexes. Oui.
Là, on fait The Voice. Tu vois, c'est ce genre d'émission. On a fait une grosse collab notre marque avec Célio. Ça, c'est vraiment des billets.
Coq Sportif, Axe.
C'est vraiment des billets qui sont
conséquents.
Gros. Tu vois, ou même tu fais une émission à Amazon Prime ou quoi. Ça, c'est de plus. Avant, les rappeurs, c'était impossible.
Même notre
c'était
document inimaginable. C'est une source de revenus.
Ça, c'est vraiment en vrai. Alors, est-ce que c'est de l'entrepreneuriat? Ouais. Oui et non, mais c'est ça qui est quand même le plus gros business parallèle et qui n'existait pas
avant. Vous, dans la musique, clairement, si on parle vraiment de l'aspect musique, ce que tu dis là, et bon, c'est un peu évident, mais pour que les gens capent le truc, c'est que vous gagnez encore plus d'argent via les marques que via
le reste. Alors, ça dépasse jamais.
Ça dépasse jamais.
Non, parce que nous, on a des gros nez des zéniths, en fait. Les frérots, c'est...
Moi, je te parle juste vente de disques versus endorsement.
Ah, que les disques?
Vente de disques,
dans ce cas-là.
Genre le phonographique par rapport à
vente de disques, sincèrement, ça sert plus à grand chose, sauf si t'es vraiment. Sauf si t'en vends énormément et que t'es à 90%.
Ça sert plus à grand chose dans votre cas, tu veux dire.
Dans notre
par
cas, voilà.
Votre économie.
Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup des rappeurs qui vendent plus de 300 000 et qui touchent 90% de leurs CD. Ouais. Eux, ils se blendent. Mmh. Mais sinon, tu vends 5 000 CD, tu touches 50%, c'est sympa, mais c'est pas.
Mais d'ailleurs, Flo, c'est intéressant.
C'est par rapport à notre contrat, etc. C'est important de.
Justement, j'allais rebondir, c'est intéressant ce que tu dis, Flo. Mais quand tu dis, nous, par exemple, les ventes de disques, c'est pour nous, c'est une économie qui est, je dirais pas relative, mais qui est pas la plus conséquente. Est-ce que le fait aussi, je ne sais pas si vous pouvez le dire ou quoi, avec
non,
la maison
de disques.
avec la maison avec laquelle vous bossez. Est-ce que le fait de vous dire que vous avez choisi un certain type de contrat qui finalement dans les royautés c'est pas le ce qui vous ramène le max, mais en termes d'investissement sur vous et la marque Big Flo Lee, ça vous ramène un ruissellement d'autres activités.
Nous c'est un choix conscient qu'on a fait. Carrément, le premier contrat qu'on a signé c'est un contrat d'artiste. Tout le monde sait que c'est les pires contrats entre guillemets. Mais faut pas oublier que nous, quand on démarre, vraiment 0 euros. C'est-à-dire qu'on a vraiment pas d'argent à mettre dans Big Flo Lee. C'est-à-dire même un ordi, c'était une dinguerie pour nous d'acheter un ordi. Donc, on n'avait pas de fonds du tout à investir dans Big Flo Lee.
On avait 16 ans aussi.
Toi, t'avais 17, moi j'avais 20.
J'ai 16, 17 ans.
Donc on s'est dit, OK, on sacrifie l'argent des CD. C'était vraiment un truc qu'on a choisi. Par contre, en échange, quand t'es un artiste, tu passes en haut de la liste parce qu'Universal, il gagne plus d'argent sur toi. Donc, c'est ça qu'il faut pas oublier. Parce que souvent, on crache sur le contrat d'artiste. Mais Universal, il regarde. Sur eux, on gagne 90 ou à peu près entre 80 et 90. Sur eux, je gagne que 20. Ah ben, j'ai envie que ce soit eux qui pètent. Donc, ils ont mis la balle sur Big Flo Lee. Ils nous ont fait beaucoup de promos, surtout qu'à l'époque, c'est plus comme aujourd'hui. À l'époque, ça servait énormément à
la radio, la télé, le marketing.
Nous, on s'est dit, fuck les ventes de CD, on rattrapera en SACEM et en concert. Donc, ça a été notre choix.
Et c'est ce qu'on a fait
conscient. C'est un choix conscient qu'on a fait, quoi.
Si vous étiez mis en avant aussi, après, il y a l'image et tout ce qui peut en découler, les partenariats, etc.
Les partenariats, etc. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est pas un truc que je regrette.
Et c'est aussi accessible, parce que ce modèle-là, je trouve super intéressant. Et ça va aussi avec un type de rap. C'est-à-dire qu'en gros, vous, l'endorsement, il va être plus simple que pour d'autres artistes un peu plus street.
Totalement.
La tournée, ça va être plus simple. Et d'autres où, pour le coup, il n'y a vraiment que la partie faux, donc la vente de CD, le stream qui leur permet de générer du bif.
Et eux, ils
ne peuvent pas le sacrifier, ils ont intérêt de se...
Ils font bien de ne pas faire ça. Ouais. Nous, on savait que de toute façon, notre rap, on n'avait pas l'envie de faire un rap vraiment clivant ou vraiment trop hardcore. De toute façon, ce n'est pas dans notre ADN même humain. Donc, on savait que ça passerait mieux pour le suite. Ça passerait mieux en
artiste. Nous, on a toujours visé le populaire.
Le grand public.
Et même dans le business, je te parle. Nous, ce qui nous fait kiffer, par exemple, je préfère faire une marque avec des prix abordables plutôt qu'on pourrait le faire un truc un peu plus
pointu, niche,
et vendre
cher.
Le truc 200 balles, tu vois. Mais moi, c'est pas du tout un truc qui me fait kiffer. Moi, plus les gens vivent au travers de nos projets ou portent nos vêtements, etc., moi, je kiffe
populaire
ça.
Populaire au sens noble du terme, quoi.
Là, on vit à Toulouse. Grâce à la boutique, ça commence vraiment à me faire où moi, je suis en trottinette électrique. Tu vois, je me balade à Toulouse et je vois énormément de suites. Je me dis, c'est une dinguerie. Après, je vais au Stadium, je vois les logos visionnaires. On a une loge, on est sur les maillots de tous les... de 0 à U17. Je me dis, on est en train de faire une dinguerie. C'est ça qui me fait kiffer.
Okay. Pardon, on n'a pas trop parlé, vas-y.
C'était parfait. Là, je pense qu'on peut clôturer sur ça. C'était un super échange. Finalement, tu vois, j'ai même pas eu besoin d'aller jusqu'au bout de mes questions. Vous étiez lancé. Je vous
Désolé,
sentais
on
vraiment
trop
super
avec
intéressant.
Lui, c'est vraiment
intéressant. C'est excellent, mais c'est mieux ça que le contraire. C'était génial. Ouais. Merci à vous les gars, j'espère vous recevoir à nouveau, on va parler avec
plaisir.
Et on se posera la question si vous êtes des rappeurs ou pas, parce qu'apparemment
ça serait un bon sujet.
On va en parler, on en reparlera à l'occasion. Donc merci à tous d'avoir regardé l'épisode, donc c'était super cool de vous recevoir les gars. En plus vous avez été transparents, vous avez dit pas mal de choses cool. Donc n'oubliez pas de liker et de commenter, et surtout très important, le podcast Dis les termes est disponible depuis la veille. Donc je compte sur toi, le lien est dans la description, va checker l'épisode si t'as pas forcément le temps d'être sur YouTube. On est sur les plateformes de streaming. Donc merci à vous, c'était Chris Iconic pour Bouscapé, c'était Dis les termes.
Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de Dis les termes présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast Dis les termes sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.